L'expérience commence. Une nouvelle saison s'ouvre pour l'expérience, espace sensible de documentaires d'auteurs, d'artistes, qui accueillent aussi des performances ou des séries en podcast original. Ce soir, c'est le message mystérieux d'un ami de lycée qui a tout déclenché. Le metteur en scène israélien Ido Shaked a reçu des nouvelles de celui qui est devenu aujourd'hui opérateur de drones dans l'armée. Il ne sait pas pourquoi il s'est mis à lui raconter son quotidien. Il ne sait pas si tout est vrai, il sait juste que le drone est entré dans la vie de cet ami et que c'est un nouvel outil lâche, d'une violence à distance, qui n'expose pas celui qui l'actionne. Les pilotes de drones rêvent-ils en noir et blanc? C'est une création d'Ido Shaked et Véronique Lamandour. La création musicale est signée Winter Family.
Il y a un moment où je me suis retrouvé à faire toujours le même rêve, où j'étais toujours dans la même situation. Je me souviens que dans ce rêve, je flotte comme l'oiseau et je dois vraiment faire un effort pour reconnaître la terre au-dessous de moi. Je vois des collines, des vergers, l'air est chaud et quand je vois les premières maisons, je sais exactement où je me trouve. Je survole le village, je vois le terrain de foot où on avait l'habitude de jouer quand on était enfant. Je descends de plus en plus bas et la couleur change. La lumière bascule. Je vois les paysages en noir et blanc maintenant. Je vois comme des situations de vie là-bas, les télévisions allumées, une voiture se déplace lentement sur les routes. Je me sens heureux. Aucune pression dans ma poitrine. Je décide donc de couper vers le nord. Après la dernière maison, j'entends la radio et la voix de mon numéro 2. On reçoit les coordonnées. J'arrive sur place. Et là, je suis en fait dans ma maison. Devant ma maison d'enfance, je veux dire. Je sais alors exactement ce qui va suivre. J'attends que la cible ressurgisse dans le jardin. Et soudain, la cible apparaît. Puis comme si quelqu'un d'autre me guidait, comme si un autre chaman opérait dans ma tête, je me retrouve face à face avec le personnage du jardin.
Et
ce qui est le plus étrange, c'est que ce personnage est toujours moi. Ce personnage, c'est moi.
Et
je me regarde choqué et je vois l'angoisse sur mon propre visage. Je ferme les yeux très très fort. Puis je me réveille.
Désolé, je n'ai pas l'habitude de parler à la radio. Je suis un metteur en scène et je suis israélien. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un spectacle qui était autour du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Pendant les répétitions, nous avons beaucoup parlé de la banalité du mal et des récits d'Anna Arendt. Nous nous sommes posé la question de la responsabilité et de ses limites. De quoi sommes-nous réellement responsables ? Je ne pouvais pas parler d'Eichmann en France sans parler d'Israël. Mais je ne pouvais pas parler d'Israël en France sans parler d'Eichmann, vous voyez ? J'avais peur que le public transforme la question de la banalité du mal, question universelle que chacun de nous devrait se poser, en une question exclusivement israélienne. J'avais peur de raccourcis, j'avais peur de ne pas être compris. Bref, c'est devenu un spectacle qui tournait beaucoup autour de ma propre peur. Pendant que je me posais ces questions, j'ai reçu un message de un gars qui était avec moi au lycée. C'est sa voix que vous avez entendue au début de l'émission.
Eido,
Salut Do.
C'est
Je sais pas si tu te souviens de moi. On était ensemble au lycée. J'ai entendu que tu faisais toujours du théâtre à Paris. Bravo, c'est bien. Bon, écoute, on m'a dit que tu venais bientôt en vacances et j'aimerais bien qu'on se voit. J'ai quelque chose à te raconter, je crois que ça peut t'intéresser. Appelle-moi, ça me fera plaisir. Bye.
J'ai mis un moment à comprendre parce que et moi, nous n'étions pas vraiment amis. Quand j'y réponse, je peux dire qu'on avait une certaine complicité l'un envers l'autre, mais ça n'allait pas plus loin. Il était discret, tellement discret qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas comment le décrire. J'ai répondu à que je serais content de le voir et que j'arrive au pays dans quelques semaines. 2 jours avant mon départ, j'ai reçu un message sur mon téléphone d'un numéro inconnu. C'était encore. Il me proposait un rendez-vous dans un café à une ville dormante, une ville dortoir, entre 30 et 40 minutes de voyage de Tel Aviv.
Je ne pensais pas que ça allait arriver. Je croyais que j'allais finir avec l'armée et retourner à une vie normale. Et puis je suis tombé amoureux. Je sais, c'est ridicule, mais c'est ce qui est arrivé. Je suis tombé amoureux du pilotage. J'ai trouvé une forme de paix dedans.
Paix.
Oui, je sais. Je suis étranger à l'armée comme j'étais étranger au lycée. Dans mon unité, on m'appelle le chaman. Oui, ils me prennent pour un mec spirituel. Ils croient que je vais à tout moment partir en Inde avec le drone. J'ai l'impression qu'opérer le drone, c'est comme si j'entrais dans la tête d'un oiseau. Je vois des champs, des bâtiments. C'est le rêve de tout le monde.
Voler.
Oui, voler. J'ai accepté le surnom et c'est devenu une forme de protection pour moi à l'unité.
C'est drôle. Moi aussi, j'ai le même effet quand je suis arrivé à l'armée avec mes idées de gauche. Finalement, je suis devenu un commandant. Je ne veux pas t'embrouiller, mais aujourd'hui, je me dis que je voulais vraiment réussir. C'est tellement ancré en nous, cette volonté de réussir, que...
Moi, quand j'attrape l'oiseau par la queue, c'est comme si je devenais un avec l'oiseau. Il y a quelque chose qui me semble juste. Puis, tu sais, ce qui est bon et ce qui est mauvais, parfois...
Bon. Pourquoi tu voulais me voir? Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas parlé. C'est lié à l'armée?
C'est lié à l'armée, oui. Un peu compliqué à expliquer.
Tu sais ce qu'on dit au théâtre? Fais d'abord, puis on parlera après.
D'accord. D'accord. Ça marche. J'accepte. Ok, il y a une opération militaire dont je faisais partie. Je ne peux pas entrer dans les détails.
Secret défense.
Voilà. Cette nuit, je traverse avec l'oiseau. Et du point de vue de l'oiseau, toutes les villes se ressemblent. Tu voles ici, tu vois là, tout est pareil. C'est la vie. Des lumières, des bâtiments, des voitures. C'est quand tu vois des endroits où les bombes sont tombées que tu vois la différence. Chaque maison détruite par les bombes ressemble à une plaie. Une blessure pas complètement cicatrisée. J'arrive à ma destination, Une maison plus entière que d'autres, deux étages. Je me souviens qu'à mon arrivée, et j'ai pas aperçu du mouvement. Il y avait des soldats sur le terrain et ils ont entouré la maison en attendant d'entrer. Moi, j'étais là comme backup.
Au cas où quelque chose ne va pas.
Voilà, c'est ça. Au cas où quelque chose ne va pas. Eux, ils devaient aller choper quelqu'un et moi, j'étais là au cas où ça commencerait à être le bordel. De mon point de vue, on dirait un jeu vidéo. Tout le monde disparaît à l'intérieur et tout à coup, à 50 mètres de là, dans un jardin où il n'y avait rien jusque-là, je vois un point blanc. Mon numéro 2 crie « hostile ». Ils ne le voient pas, c'est que moi qui le vois. On ne sait pas trop ce qu'ils savent à ce moment-là, et donc moi, je n'ai pas le choix. Ma mission est tout de suite de le neutraliser. Du coup, je plonge l'oiseau.
Neutraliser, ça veut dire éliminer. Et toi, tu vois quoi ?
Je le vois comme un personnage. Et plus je descends l'oiseau, plus les pixels vont prendre la forme d'un être humain. En plus, je vois que c'est vraiment quelqu'un d'armé. Sur mon écran, je vois la croix sur lui. J'appuie sur la gâchette et j'attends une forme de résistance quand le missile est lancé. Normalement, on voit le missile sur l'écran aussi, mais là, rien ne se passe. La gâchette est bloquée. Je regarde le stick et je comprends que ce n'est pas la gâchette qui ne fonctionne pas, c'est ma main qui ne veut pas, c'est mon doigt qui n'appuie pas.
Paralysé.
Oui, un truc comme ça. J'essaie de changer le doigt, mais rien. Et cette paralysie commence à contaminer toute ma main, à se propager à mon bras. J'essaie de changer de main, puis ça ne marche pas non plus. Et quand je lève la tête, je vois que le personnage a disparu dans les buissons.
C'est ainsi que se termina notre premier rendez-vous. Le chaman a dû quitter brutalement le café en prétextant un appel, mais quelque chose d'étrange semblait avoir attiré son attention et l'éloignait déjà de ce qu'il m'a raconté. J'ai pris la voiture et je suis parti vers Tel Aviv. Allô.
Allô.
Comment c'était le rendez-vous ?
Bien, je crois. Il a parlé du devoir de mémoire, de l'antisémitisme et des banlieues, sexe, drogue et samedi, quoi. J'ai pu te promettre ta peau, mais...
D'accord, et pour la subvention ?
On va savoir la semaine prochaine.
Ok, ok. Tu sais, je fais un rêve.
Quoi, comme rêve ?
Bah, c'est drôle, tous les comédiens du spectacle viennent chez moi au milieu de la nuit et moi, je suis dans mon lit. Et je vous dis, je vous annonce que je ne vais pas faire le spectacle. J'annule le spectacle. Et je commence à expliquer dans le rêve que, en fait, j'ai décidé de faire ça parce que...
Et moi, je ne suis pas là ?
Bah, si tu es là, j'arrive.
Ok, alors.
Et, du coup, je vous dis que je ne comprends pas de quoi on parle. Je vous dis que je ne comprends pas pourquoi, moi, j'ai besoin de faire ça, un spectacle sur l'Holocauste et tout ça. Je ne comprends pas.
Et moi, je fais quoi ?
Bah, tu t'énerves.
Bah oui, et puis alors ?
Bah, et tu dis que ce spectacle, bah, notre spectacle, ne parle pas du tout de l'Holocauste.
Alors, ça parle de quoi ?
Tu dis que ça parle d'ici et là.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, d'ici et là, de mon rêve. Tu dis que le spectacle parle de moi, dans mon lit, qui pense à ce spectacle qui ne sera jamais joué, du public qui nous regarde et qui a peur de faire face à son passé, de moi qui a peur de faire face à mon passé.
Ça me semble juste.
Oui, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant ?
Je sais pas, c'est toi le metteur en scène. Et le fait que tu te sois cassé là pour de fin, c'est lui mettre dans la merde, tu sais.
Bon, bah c'est pas ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Pardon, mais la propose est finie là. Tu veux qu'on fasse l'improvisation ?
L'improvisation de quoi ?
Bah de ton rêve.
Ah bah oui, pourquoi pas ?
Ok. Ah ben on va filmer pour toi.
Essayez de pas faire trop de la merde, hein, c'est un sujet important quand même.
Oui, bien sûr. Se rappeler et ne jamais oublier.
Ouais, à toi aussi. Bye.
Bye.
Quelques jours après notre premier rendez-vous, j'ai reçu un message de... Il était étonnamment de bonne humeur, vu la brusque fin de notre dernier rendez-vous. Il m'a proposé de venir lui rendre visite à sa base militaire, à condition de me faire jurer de ne pas dire un mot de la raison de ma présence. Quand j'ai traversé le portail de la base de... Tout m'est revenu. Je conduisais la petite voiture rouge de la femme de mon père, zigzagant entre des F-15 et des F-16 avec cette voiture qui ressemble à un jouet d'enfant, et j'étais un peu jaloux. Aujourd'hui encore, une partie de moi continue de vivre mon service militaire. En plein milieu de Paris, je peux revenir à mon entraînement, à une arrestation dans un village dans le trou du cul de Dieu, et me dire que peut-être il aurait fallu entrer par la porte arrière et pas par celle de devant. Et même si je ne me sens pas du tout faire partie de cette chose, et que mon cerveau me rappelle à quel point c'est terrible tout ça, c'est quand même un peu excitant. Bref, m'a retrouvé à l'entrée de son aile. C'est comme ça qu'ils appellent la partie de la base qui appartient à une certaine unité. Il pensait que pour que je comprenne bien de quoi il parle, il fallait que je voie à quoi ressemble un cockpit, une cabine de contrôle d'un opérateur comme ça. La situation me semble dangereuse. Je ne connais pas vraiment et je ne comprends pas ce qu'il attend de ma présence ici et voilà que je me trouve coincé avec lui dans 15 mètres carrés de crime de guerre. M'a jeté un regard étrange, s'est assis et a repris son histoire exactement au même point où il avait laissé lors de notre premier rendez-vous.
Maintenant, je suis tout seul. Je ressasse le point blanc sur l'écran et le petit personnage qui apparaît. Je sens ma main armer l'appareil, puis je vois le visage du personnage. Je suis descendu trop bas. Je n'étais pas censé être si bas. J'ai vu la peur sur son visage. À travers les yeux de l'oiseau, le personnage au sol m'a vu, moi. Je le sens, je le sais. J'ai senti l'air se vider de mes poumons, ma respiration ralentir comme si un mur de béton m'était tombé sur la poitrine. Je voulais dormir, disparaître, fermer les yeux. Puis je me réveille au sol, et autour de moi il y a l'équipe et le médecin de l'unité. Puis c'est tout. Une heure après, j'étais chez moi. Je me suis mis au lit et j'ai dormi pendant 3 jours. Personne ne m'a posé de questions, et moi j'ai décidé de ne rien dire. Deux semaines après, je suis en retour de mission avec l'oiseau et je repense à cette histoire pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je décide donc de repasser au-dessus de la maison et quand j'y arrive, je vois rien de spécial. Mais j'entends quelque chose, difficile à distinguer. J'entends une forme de brouhaha. Comme si une vieille radio se mettait en marche.
Tayas, hey,
pilote.
Comment me vois-tu, toi, à travers les yeux de ton oiseau électrique? Est-ce que tu te souviens que ma vie était un jour en couleur? Peut-être comme moi. Toi aussi, tu as oublié.
Hein?
C'est quoi?
Un poème.
Poème de qui?
Zéro. Et un le
Voilà, ça, je ne sais pas. J'ai cherché pendant très longtemps pourtant.
Je ne comprends pas.
Comment t'expliquer ? J'entends cette voix et j'ai l'impression qu'elle me parle. La cible. Écoute, à ce moment-là, je l'ai senti comme ça. Je suis devenu un peu obsédé par cette personne et donc une semaine après, je repasse. Puis j'entends la même voix.
Ce n'est pas comme ça que doit se comporter un hôte dans la maison de la nuit. Viens, mon ami, assis-toi. Je t'apprendrai la poésie antique et toi, tu m'apprendras le secret du bonheur. Apprends-moi ce qu'est la liberté, car ici nous avons été oubliés sous le soleil désertique pendant 40 ans.
Je suis devenu complètement fou. Je pensais que ma tête allait exploser, j'en pouvais plus. Après 2 mois, à la fin d'une mission, je suis à nouveau passé au-dessus de la maison. Mais maintenant, je me dis que c'est fini, que j'en peux plus tout ça. Pour la première fois de ma vie, je me dis, vas-y, je veux un monde de queues au supermarché, de loyers à payer, d'enfants à s'occuper, de relations à maintenir et des voitures de fonction. Je prends tout ça avec amour. Quand soudain, la voix a surgi.
Pilote. Pilote. Si tu inventais un appareil pour entendre le bruit de mon cœur, tu changerais tes épées en stylo. Tu préparerais un café sur une terrasse. Et tu laisserais le ciel aux oiseaux.
Je bougeais plus. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que mon petit personnage avait contaminé l'oiseau pour s'introduire dans le cockpit. Comme si j'étais jeté dans un film. Après, je suis allé ouvrir le Pandora.
Le Pandora, la boîte de Pandore, c'est là où les services des renseignements gardent les fichiers des cibles. Pour les opérateurs de drones avec qui je parlais, c'était la boîte à ne pas ouvrir.
Allô ? Allô ? Allô ?
Malgré l'interdiction, le chaman va l'ouvrir. Il sait qu'il est allé beaucoup trop loin, mais il ne peut pas s'arrêter.
Allô ?
Les lendemains, il met un code, 10 chiffres. Inscrit sur la fiche de sa cible dans un logiciel qui s'appelle Yonex-Vache, colibri en français. Le chaman et sa cible commencent alors à se parler.
Pilote, tu as fait appel à eux ?
À qui ?
Au char qui renifle derrière moi dans le noir.
Non, pas moi. Ici, c'est que nous deux.
Que nous deux, hein. Et entre nous, il y a quoi ? Le soleil, la lune, la terre, le monde tout entier est à toi ? Vous tous ensemble, vous êtes unis contre moi. Un jour, un prof m'a dit, s'il n'y a pas de pain, mangez des mots. Et s'il n'y a pas de terre, allez vous promener sur les sentiers d'un ancien poème. Mais moi, je n'ai pas de mots. Et nos poèmes aussi sont des espaces vides. Le prof est mort maintenant.
Hé, allô, allô, t'entends pas?
T'es toujours là?
Ok,
oui, je suis là.
J'ai eu peur pour un instant que tu sois parti. Peut-être tu pourrais me raconter quelque chose sur toi pour faire connaissance.
Chez Nakir.
Raconter quoi ?
Parle-moi de l'amour.
J'ai pas beaucoup d'histoires d'amour. Ce n'est pas mon domaine.
Menteur. Moi, je suis là dans un trou et j'imagine un ennemi sur un cheval. Un mousquetaire. S'il n'y a pas d'amour, pourquoi faire la guerre? Pourquoi envoyer des satellites dans le ciel pour tracer chaque paix? Tu as aussi une bite robotique, toi, qui se lève à chaque fois que quelqu'un appuie sur un bouton au Texas.
C'est facile pour toi.
Ouais, c'est ça.
Avoir raison.
Dit l'exécuteur à son condamné.
Dit le soldat à son ennemi.
Soldat? À quelle bataille as-tu participé pour te faire appeler soldat?
Donc je dois me justifier de ne pas aller me faire tuer? Si la situation était renversée, tu ne ferais pas la même chose?
Donc pourquoi tu n'as pas tiré?
Hésitation.
De quel genre?
Du genre qui n'arrivera plus.
Qui sait? Tu es peut-être infecté?
C'était le cas. Ça ne l'est plus.
Tu en es sûr?
Fais un petit tour dans la rue et on verra bien.
Donc, pourquoi tu n'as pas tiré?
Je ne sais pas.
On a écrit une fois, un assassin, si tu avais contemplé le visage de la victime, réfléchis. Tu te serais souvenu de ta mère dans la chambre à gaz. Tu te serais délivré de la sagesse du fusil. Et tu aurais changé d'avis.
Darwish.
Donc tu as lu Darwish? Ça aussi c'est un attentat.
Avant de m'enrôler dans l'armée, il y avait un genre de salon littéraire à Tel Aviv. Alors j'en ai acheté.
Il y avait des tonnes de livres. Et toi, c'est Darwish que tu as choisi.
J'ai aimé le nom. État de siège.
C'est un beau titre. Et tu en as pensé quoi?
Que ce n'est pas avec la nostalgie pour Bab el-Shams, pour vos villages perdus, que votre état verra le jour.
Sans Bab el-Shams, pourquoi fonder un état?
Aucune possibilité de vivre ensemble.
Dit le boucher au veau.
Tu n'es pas un veau. Tu es peut-être un renard.
Renard? C'est ce qu'on vous raconte?
Chez nous, on ne nous dit rien. C'est la politique de la maison.
Alors on lâche les chiens et c'est tout? Vous ne posez pas de questions? Vous ne faites que suivre l'odeur? Et parler, c'est autorisé?
Ça aussi, c'est interdit.
J'ai l'impression que t'es un peu dans la merde, mon ami.
Mon ami?
8 mois sous la terre sans avoir aucune conversation. Je suis assis dans un trou et je parle avec moi-même. Donc, cuir, même si tu ne le veux pas, maintenant tu es un ami. Une fois par semaine, un homme me laisse un sac à l'entrée avec de la nourriture, de l'eau et des bouquins.
Et avec lui, tu n'as jamais parlé.
Ils envoyaient un sourd et muet. Ils avaient peur des valances.
Puis la conversation s'est coupée. Et je suis resté complètement perdu dans le cockpit. 10 minutes, 2 heures, peut-être 2 jours sont passés, je ne sais plus. Et je suis resté là-bas sans respirer. J'ai imaginé la police militaire qui débarque et m'envoie en prison ou dans un asile de fous. S'il y avait une fenêtre, j'aurais sûrement sauté juste pour arrêter le film qui tournait dans ma tête. J'arrêtais pas de le chercher. 3 jours de silence sont passés, et là, un point bleu s'est mis à clignoter. Alors pourquoi tu es sorti de ton trou?
Dans le troisième chapitre du Maître et Marguerite, j'ai trouvé un mot à mon intention. Il y avait écrit que ma fille est née. Je voulais la voir. Puis tu es arrivé. Puis le vaisseau Enterprise est descendu du ciel et m'a regardé avec ses yeux de néon bleu. Et au lieu de me piquer comme une abeille et de boucler l'histoire, il a volé comme un papillon.
Comment elle s'appelle?
Qui?
Aïcha.
La femme.
Amal.
Tekva.
Espoir.
Donc tu parles arabe?
Quand?
J'ai appris à l'école.
Un autre attentat. C'est 2-0 pour nous.
Il n'en reste pas grand-chose.
Faux. Sinon, tu ne serais pas si gentil avec le mot espoir. Et tu te rappelles quoi de l'arabe de l'école?
Une chanson pour mémoriser des temps de conjugaison.
Vous avez un humour pervers, tu sais ça?
J'ai appris l'arabe avec un prof qui venait du Chine bête.
C'est comme si moi j'apprenais l'hébreu avec Arafat.
Et ton hébreu, il vient d'où?
De vous? Je suis resté enfermé 8 ans dans la prison d'Askelon. Chaque mot qui sortait de ma bouche était un bâton avec lequel on me cassait le dos.
Ces conversations ont continué pendant quelques semaines. 5 minutes tous les 2-3 jours.
Amal.
Puis un mois plus tard, le nom d'Amal est réapparu.
Amal est arrivé une nuit d'interrogatoire. J'avais perdu mes couilles tellement j'avais mal. Il y avait un homme au-dessus de moi. Un type assez grand. Il a sorti son pénis et il a pissé sur mon visage. Maintenant, je suis un mec optimiste. Vraiment. Quand j'étais enfant, les gens pensaient que j'étais un peu bête. Et là, je suis allongé, coincé au sol. Et ce mec, peut-être que c'est votre prof d'arabe, sort son pénis et pisse sur mon visage. Donc, quand ce type a commencé à pisser sur moi, j'ai fermé les yeux et Amal est arrivée et s'est assise à côté de moi. Elle me tenait la main. Elle n'en avait rien à foutre de l'odeur. Et le capitaine, elle ne l'a même pas regardé. Elle est venue s'asseoir à côté de moi jusqu'à ce que ça soit fini. Chaque nuit, elle s'y est infiltrée. Amal, j'étais un vrai bébé à l'époque des interrogatoires. Il fallait tout m'apprendre. Et les premières fois, j'arrivais seulement à mettre mes lèvres sur son sein pour téter. J'ai tété du sein d'Amal mes premiers mots. Elle était mon Dieu et de sa côte m'a fait à son image. Elle a pris une poignée de terre pour me modeler en être vivant, en golem. Une créature qui rampait sur le sol. Petit à petit, je me suis mis debout. Je me stabilisais sur mes jambes. Après quelques semaines, on m'a remis dans une cellule normale. Là-bas, Amal n'arrivait pas à s'infiltrer. Parfois, quand les autres dormaient, elle apparaissait à la fenêtre et m'insufflait la vie. J'étais fou à cause du manque Ma peau voulait se séparer de mon corps pour la rejoindre et s'enfuir à travers les barreaux.
Et finalement, tu t'es enfui? C'est pour ça qu'on te cherche?
On ne peut pas s'enfuir. Dans le cadre d'un échange de prisonniers, on m'a annoncé que j'étais libre. On m'a renvoyé vers la Jordanie, mais j'ai retraversé la frontière pour retrouver Amal.
Non, Amatsata.
Tu l'as trouvé?
Je ne sais pas comment elle savait que j'allais venir. Elle m'attendait sous l'arbre, sous le figuier. Je me souviens que quand je l'ai vue, est venu dans ma tête un mot.
Ezo.
Lequel?
Assisite. Juteuse.
Assisite.
Juteuse?
Ken? Iaitam leat assis.
Oui.
Kmo pri bachel.
Elle était pleine de jus, comme un fruit mûr. Quand j'imaginais nos rendez-vous, j'avais toujours des images en tête. Je pensais à des baisers, des étreintes, des choses qu'on voit à la télé. Quand je suis revenu et que je l'ai vue en train de m'attendre, je voulais mettre ma tête à l'intérieur d'elle et la manger vraiment, tout entière dans l'estomac. C'était une femme vivante et elle pulsait à l'intérieur de mon ventre. Puis je m'oubliais moi-même et je la laissais souffler la vie dans ma bouche. En 6 jours, elle a créé le monde du néant que j'étais. Nous avons vécu une nuit entière sous le figuier. Voilà. On a commencé avec la pisse et on a fini avec l'amour.
Puis, s'est arrêté. Quelque chose l'a mis en garde. Il a ouvert la porte pour sortir au soleil, le regardant comme si quelque chose n'était pas dans l'ordre. Tous ces silences, tout ce drame, tout me semblait trop réfléchi, trop mis en scène, comme si avait mis en place un petit spectacle. Je voulais lui demander s'il y avait du vrai dans tout ça, et s'il pensait vraiment que j'étais assez con pour y croire. Puis je me suis dit que même si me faisait un spectacle, que ces rendez-vous mystérieux étaient conçus pour produire je ne sais quel effet, il était là en face de moi à essayer de me raconter quelque chose, et cette chose, vraie ou non, plausible ou pas, avait du sens, une raison d'être. Il m'a peut-être vu douter car un sourire est apparu sur son visage, puis il est reparti vers le petit immeuble d'en face. Maintenant, je dois vous avouer quelque chose moi aussi. Le chaman n'a jamais enregistré ses conversations avec Imad. Il m'a juste donné un cahier d'école avec des retranscriptions. Pour donner voix à Imad, je suis parti à Haïfa pour retrouver un acteur palestinien qui s'appelle Henry Andraouez. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai entendu l'histoire d'Amal et Imad, je pensais directement à lui.
Elle
est où?
Qui?
Amal.
Amal. Tu as dit que Dieu avait laissé un mot où il est écrit que ta fille est née. À l'intérieur du livre, Le Maître et Marguerite, dans le 3e chapitre.
Qui sait, pilote? Quand je suis retourné à la maison, elle était vide. Je suis monté au 2e étage et j'ai entendu les soldats dans le jardin.
Mais elle est partie où?
Je ne sais pas, pilote.
J'ai ouvert ton dossier. J'ai fait une entorse à la première loi de notre unité. J'ai sorti les morts, Imad, de leur boîte de Pandore. Et dans le 64e dossier, tu es apparu.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi tu as ouvert ?
Je ne sais pas. C'était pour un mal. Je voulais la voir.
Et tu l'as vue ?
Non.
Il
n'est pas sur notre réseau.
C'est intéressant. Je croyais que rien ne vous échappait jusqu'à maintenant.
Moi aussi, je croyais ça, mais apparemment, il reste des choses qui nous échappent.
Amal s'est infiltré dans votre prison. Ils ne vont jamais la trouver.
Elle doit être quelque part, non ?
Et toi, pourquoi tu fais ça ?
C'est-à-dire ?
Pourquoi tu la cherches ?
Je ne sais pas. Quelqu'un t'a fait sortir de ton trou. Quelqu'un t'a appris pour venir vers moi. En croyant que j'allais te tuer. Qui est-ce ?
Qu'est-ce que ça change ?
Tu ne veux pas savoir ? Tu ne veux pas savoir qui t'a piégé ?
Qu'est-ce que ça change pour toi ? Toi, tu te poses la question, qui t'a attiré dans le bois ? Moi, je suis né ici. Je saute entre les branches comme un singe depuis 30 ans.
Et
si je la trouve ?
Oublie.
À l'intérieur de la maison, les soldats ont trouvé un enregistrement. Tu veux entendre ?
فراغ العالم عم بفضى
vide le monde est vide
جربت اغني امبارح بس
j'ai essayé de chanter hier et ma voix s'est coincée dans ma gorge à griffer mes cordes vocales il m'est sorti la voix d'un chien et après silence j'ai perdu ma voix
اختفى صوتي كانه جسمي نسي كيف
comme si mon corps avait oublié comment produire du son
صرت خرسة
Je suis devenue muette. J'ai disparu. Je te dis tout ça parce que je ne suis pas sûre que l'on peut vivre à l'intérieur de ce silence. Ni moi, ni
Noura.
À l'intérieur de ma tête, il y avait des mots. Et quand j'ai parlé à notre fille, j'ai su que toi aussi tu étais en train de lui parler. Tout ça est devenu tellement difficile depuis que tu as disparu. Depuis que tu es descendu dans le trou. Pendant quelques semaines, j'ai reçu des mots du désir volé, enveloppés de l'odeur de la boue mouillée qui m'a été transmise par les jeunes du quartier. L'un d'entre eux est arrivé tout tendu à notre porte. Et dans ses yeux, j'ai vu des pensées qui tournaient. J'étais encore plus
désirée.
Voir les jeunes qui s'entremêlent et se frottent les uns les autres à l'entrée de notre maison, je ne peux qu'imaginer ce qui leur est arrivé sur le chemin lorsqu'ils se sont battus entre ouvrir ou ne pas ouvrir tes lettres. À l'intérieur de ta cachette obscure, tu m'as écrit l'amour que tu ne pouvais pas me dire. J'ai toujours su que tu possédais ce genre d'amour en toi. Je suis devenue presque désespérée d'essayer de te faire parler quand nous étions ensemble. Et tout d'un coup, rivière des langues sort de toi. Dans le noir, tu as tourmenté tes mots vers moi. J'ai entendu tes reniflements. Tu m'as demandé des choses, tu m'as supplié des choses. Tu voulais être ma petite fille et mon frère. Tu voulais me monter comme un chien et une chienne. Quand on t'a brisé, tu es devenue souple. Comme de l'eau. Tu pouvais prendre différentes formes. Mon quotidien se remplit de ta découverte. J'ai tenté de deviner qui voudrais-tu que je sois pour toi. J'ai ri comme une folle quand j'ai imaginé tes petits mots devenir une partie d'une histoire Nous raconterons un jour un autre couple dans un restaurant médiocre aux États-Unis.
On va devoir faire vite. Pour l'instant, c'est moi qui te survole. Demain, quelqu'un d'autre va prendre les rênes. Et ni Amal, ni ta fille, ni aucun trou dans la terre et roman russe l'intéresseront. Nous avons une, peut-être deux semaines avant que mon remplaçant arrive.
Est-ce que c'est assez pour la trouver ?
Il faut que tu me racontes tout, depuis le début.
Ça me fait penser à une émission que j'ai vue il y a longtemps, un reportage sur un illusionniste anglais qui a décidé de démasquer les arnaques des clairvoyantes, les sorcières et les télépathes de tout genre. Il voulait nous faire comprendre que tout ce que nous apercevons comme surnaturel, c'est du bullshit, l'arnaque totale. Donc, il y a un moment où il explique qu'il est assez simple de monter un coup comme ça, que ça demande une petite préparation, mais que le plus important, c'est de bien choisir ses victimes. Les gens les plus susceptibles de croire sont des gens créatifs, des artistes, des auteurs, des metteurs en scène. Car ils imaginent le film tout de suite, ils remplissent les espaces, ils ont la capacité de se laisser aller. Je pense à ça maintenant parce que, à ce moment-là, j'avais effectivement, moi aussi, envie de me laisser porter par quelque chose. À l'époque, je ne savais pas jusqu'où cette vague allait m'amener, mais j'ai commencé à sentir le mouvement. Entre-temps, mes vacances en Israël allaient toucher à leur fin. La fête finie, aucun signe de b*** ne m'est parvenu. Quand il m'a appelé enfin, sa voix était calme. Il a dit qu'il pouvait venir chez moi cette fois-ci, si c'était plus simple pour moi. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il vienne me chercher avec ma valise et m'amène à l'aéroport. Quand je suis entré dans la voiture, il m'a donné une enveloppe avec des rapports du service de renseignement de l'armée. Contrairement à ce que le chaman m'a dit, dans un des documents, Imad apparaît presque un an avant la date de sa soi-disant libération.
Oui, je sais ça.
Tu sais qu'il a été donc relâché de prison presque un an avant sa libération.
Oui, j'ai appris ça.
Alors, soit Imad t'a menti, soit c'est toi qui mens.
Non. Personne n'a menti. Imad est sorti de prison en 2012, mais il était cuit. On l'a lâché à côté d'un checkpoint comme un chien. On a appelé sa famille et elle l'a trouvé comme un ballon de football crevé quand elle est venue le récupérer. Il est resté à la maison environ une année.
Et l'histoire de prison et Amal qui est arrivé, tout ça, dans les rapports, il y a écrit qu'Amal a fait des études d'aide-soignante en France. Et qu'Imad est resté chez lui une année. Est-ce que ça veut dire qu'elle la soignait, qu'elle était son aide-soignante ?
Je ne sais pas trop. Imad était un peu confus à sa sortie de prison et les choses se sont mélangées.
Bon, d'accord, donc Amal a rencontré Imad après sa libération.
Oui.
Elle n'est pas venue en prison.
Exact.
Et peut-être qu'elle était juste une aide-soignante pour lui.
Je ne
crois que c'est plutôt à elle de répondre.
Elle n'a rien dit pendant presque une minute. Et moi, j'ai commencé à tourner dans ma tête tout ce que j'avais entendu de lui depuis quelques mois. Comme le chaman... Moi aussi, j'ai commencé à avoir une petite lumière rouge clignoter dans ma tête. J'avais l'impression que ces personnes-là, le chaman, Imad, Amal, tout se rapprochait de moi. Que le paravent qui nous avait séparés s'ouvrait enfin. Que quelque chose de nouveau était en train de se passer. J'ai entendu respirer.
Peut-être qu'elle est à Paris.
Mais qui ?
Amal.
Amal. Peut-être qu'elle est à Paris. Qu'est-ce que t'en penses ?
De quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je pense ? Je ne comprends pas ce que tu dis.
Je dis juste que peut-être Amal est revenu à Paris. Je ne peux pas vérifier, moi.
D'accord, ça j'ai compris. Il y a beaucoup de Palestiniens à Paris, alors pourquoi tu te tais maintenant ?
Peut-être tu peux la trouver. Tu n'es pas obligé de le faire, mais j'ai l'impression que dans un sens, tu dois le faire.
Comment ? Je comprends pas.
Je sais pas.
D'accord.
Vraiment ?
Oui, t'es complètement taré, vraiment, mais... D'accord.
Merci. Merci beaucoup. Allez, on y va.
J'ai décidé de chercher Amal. C'était une décision très mauvaise. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai décidé de me noyer dans cette histoire. J'étais en plein milieu des répètes, la tête pleine des transferts d'enfants, des chambres à gaz, et la nuit, je me suis plongé dans les éléments que le chaman m'a envoyés. J'ai passé des trajets entiers de métro à écouter nos conversations. Je n'ai rien trouvé. Le chaman ne m'a donné aucun indice assez concret pour m'amener à Amal. Mais il insistait pour que je cherche. Il m'appelait tous les deux jours pour me demander si j'avançais, pour me pousser à ne pas lâcher. Dans un dîner, quelqu'un a commencé à me parler d'un groupe israélien qui allait participer à une manifestation contre la dernière guerre à Gaza. Des citoyens israéliens en solidarité avec Gaza. Je pensais que si Amal était à Paris, elle serait sans doute là-bas. Et peut-être qu'avec la photo que le chaman m'avait envoyée, je pourrais la reconnaître. À la fin, c'est ce qui est arrivé. La manifestation allait se terminer et les policiers se préparaient nerveusement à disperser la foule qui occupait la place de la République. Je l'ai aperçue au milieu d'un groupe de militants. Je me suis approché d'elle pour être sûr et nos regards se sont croisés. Elle a parlé la première. « Nous nous connaissons ?» J'ai dit « Imad demande que tu l'attendes un peu. » Quelque chose à l'intérieur d'Amal s'est effondré, s'est fracturé. Seuls ses yeux grands ouverts restaient accrochés à moi. Elle a commencé à pleurer. Une amie à elle l'a attrapée pour l'amener de l'autre côté de la place. Des policiers ont bloqué la route et je n'ai pas pu m'approcher. Quelqu'un de ce groupe-là m'a donné son numéro de téléphone. Pendant une semaine, je n'ai pas arrêté d'appeler. Après avoir supplié quelqu'un, j'ai réussi à avoir son adresse et je suis allé chez elle. J'ai attendu à côté de la porte et j'ai interrogé le voisin. Une semaine est passée. Personne ne l'a vu. Amal avait disparu. Un an est passé depuis, et je pensais que cette émission allait se terminer comme ça, avec la disparition d'Amal, et que la fin de notre histoire allait rester ouverte. Puis j'ai reçu un message.
Comment ça se fait que tu n'es pas su ? Depuis la manifestation, il y a un bourdonnement à l'intérieur de ma poitrine. Je l'entends presque tout le temps. Il a commencé quand tu as dit « Imad ». Avant, il y avait Imad et il y avait Amal. Et Amal était Imad. Et à l'intérieur de cette Imad Amal, on a créé une fille qui était ma lumière, Noura. Et nous nous sommes séparés comme l'eau et le ciel se sont séparés. Tout s'est arrêté. Je suis partie très loin. J'entends encore ce bourdonnement et je refuse de lui ouvrir la porte. Tu as dit, Imad, et tout d'un coup, Imad Amal ne me quitte plus. Je n'arrive pas à m'enfuir. Je dois me rappeler qu'il n'y a pas d'Imad, qu'il y a longtemps, Noura et moi, on l'attendait au coin de la rue. Noura qui n'a pas vu une seconde, même une seconde de sa vie. Elle a seulement été de moi, ce manque terrible de son corps. Elle s'est endormie sur mon dos, et moi j'ai attendu. J'ai respiré pour lui. J'étais confiante parce que nous avions payé, Imad et moi, nous avions payé nos dettes au monde. Et maintenant, c'était notre tour de recevoir. Les soldats sont arrivés. Je n'ai pas attendu. Je n'ai rien entendu. J'ai vu Noura se crisper de nervosité. Et j'ai compris ce que je ne pouvais voir. Tout d'un coup, il est apparu, sorti d'un tunnel dans le jardin. Je l'ai vu, il m'a vu. À ce moment-là, j'ai été d'accord pour imaginer notre futur qui s'ouvrait devant nous. À cet instant, il était déjà mort. L'explosion m'a jeté vers le sol avec Noura sur mon dos. Je me suis levée, j'ai couru comme une folle vers le jardin pour ne trouver plus rien. Un vide m'a frappé dans le ventre et ne m'a plus lâché depuis. Pourquoi tu es revenu vers moi maintenant, après tout ce temps, réveillé, me briser encore? Quel genre d'ami as-tu été à Imad? Toi, Israélien, ancien soldat. Ce jour même, il y a si longtemps, à côté du figuier, est descendu du ciel un avion de la taille d'un jouet, l'a exterminé, l'a anéanti, et moi aussi, je crois. Et Noura seule est restée en vie. Je dois la protéger.
Yvonne Manning. Raissa, Imahit, Raka. השמש נלחמת במגן הביטחון של החדר שלי ואני זוכה רק בברכת החום שלה האור משחק מחבואים עם הצללים שערי הרשתית שלי מסננים את חוסר הצדק מי סמני מי עיוור אותי עזק אותי בשרשרת כבדה מזהב ויהלומים.
Les pilotes des drones rêvent-ils en noir et blanc? Création d'Ido Shaked, réalisée par Véronique Lamondour. Avec les voix de Roy Rick, Arthur Viadieu, Henry Andraouès, Rassan El Hakim, Khulou Tanous, Lauren Houda Hussein, Véronique Lamondour et Ido Shaked. Grand merci à Bip, j'espère qu'il n'est pas fâché de ma petite trahison, à Idan Rabinovitch, Ofri Greenbaum, Hanan Ishai, Amin Kouti et Bachar Mourkous. Collaboration artistique Flora Morisset, création sonore de Winter Family. Prise de son Arthur Gerbeau, Valérie Lavalard, Eric Boisset, mixage Claire Levasseur. L'expérience Inès Duperron et Aurélie Charon. Chaman, figuier, espoir, bouteille, bébé, lumière, nuit, noir, blanc.
Cette semaine, vous pouvez écouter le podcast original en 3 épisodes. Les mauvaises filles du centre éducatif de Doudeville. En attendant dimanche prochain, une expérience littéraire de l'écrivain Tanguy Viel parti sur les traces de la première locomotive en Angleterre, le livre des trains. Il est minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.